Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ben.
Hello.
Il est là, le gars.
Bienvenue.
Ça va?
Très bien, et toi?
Ça va. Donc là, on est chez toi, là.
Ouais, mon petit atelier.
Et donc, on est à combien d'acrèdes? Sur combien de temps, là, à peu près?
Ah, on doit avoir 150 acrèdes, à peu près, ouais.
C'est beau, ça. Bah, merci de nous recevoir.
Bah, avec plaisir.
Quel kiff d'être là.
Ouais.
C'est quoi le projet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait?
Aujourd'hui, on va faire un peu de custo. On va préparer la raquette de Joe Tsonga,
ouais.
Qui est encore actif.
Qui est à la retraite, mais qui joue pour des exhibitions.
Ouais, exhibitions, et puis même pour le quotidien quand il est sur le court. Hein, c'est ouais. Toujours mieux d'avoir une raquette telle qu'il l'aime. Donc on les a ici. Ils viennent d'arriver, ils sont arrivés hier, donc on va...
Je crois qu'on a eu beaucoup de chance, hein, parce qu'on avait prévu ce
rendez-vous
ensemble.
On a bien visé. Et puis voilà, donc on a pas mal de boulot dessus, donc on va s'y mettre pour pas perdre de temps.
Alors déjà, petite présentation, t'es cordeur de l'équipe de France de Coupe Davis. Depuis combien de temps?
Depuis 2 ans. Ça a été la deuxième campagne cette année. On rempile pour la troisième campagne l'année prochaine avec un petit changement de capitaine. Mais voilà, on repart représenter la France. On va à Taïwan.
À côté de ça, tu as ta société privée de cordage, cordeur.
Ouais, on va accompagner les joueurs sur toute la problématique cordage. Donc ça, c'est un programme essentiellement articulé sur les grands chelems et Master 1000, hommes et femmes. Donc ça représente une trentaine de semaines pour chaque tour. Donc que je ne fais pas tout seul, hein, je fais avec 2 collègues qui m'épaulent sur le programme.
Tu peux nous préciser les joueurs et les joueuses?
Bah, voilà, donc l'année prochaine, on va travailler encore avec donc Caroline Garcia, Leila Fernandez, Yelena Ostapenko chez les filles, et chez les hommes, Gaël Monfils, Félix Ogier-Aliassim, Hugo Humbert et Cameron Norrie.
Du lourd.
Ouais. Hâte de voir ce que 2024 nous réserve pour ces joueurs, parce que on a eu des fortunes diverses cette année, mais voilà, on a des belles choses qui se présentent. On a hâte de voir ce que ça a donné sur le terrain, et surtout combien de trophées ils vont pouvoir emporter.
C'est bon, ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de l'atelier?
Ouais, alors ça va vite. Alors voilà, donc j'ai essayé de centraliser tout pour pouvoir travailler de chez moi, hein, télétravail. Ça peut pas faire de mal, surtout avec tous ces déplacements-là.
En moyenne, combien de semaines dans l'année en déplacement?
7 mois de l'année. Donc ça fait une bonne part de l'année en dehors de la maison. Donc voilà, la possibilité de travailler de chez soi, c'est un petit luxe que je me permets. Et voilà, le fait d'avoir dédié cette pièce à mon atelier, ça me permet de m'organiser au mieux, de travailler même avec le décalage horaire. Voilà, donc c'est pratique, exactement.
Merci de nous ouvrir les portes.
Bah là, on a deux machines, voilà, parce qu'on a quand même besoin de corder. Une version qu'on a retravaillée pour essayer de la rendre la plus pratique pour voyager.
Okay.
Donc on a le châssis d'une Bayardo telle qu'elle est là, et puis on a sorti tout ce qui était lourd, tout ce qui était imposant pour remplacer par un moteur externe qu'on a adapté. Et puis on a essayé de lui faire une crise un petit régime.
Une machine comme ça pèse combien et coûte combien?
Là, on arrive à partir avec deux sacs. Donc, c'est-à-dire nos outils, la machine, on arrive à partir avec 2 sacs de 23 kilos. Donc, avec Air France, on est bon.
Ouais. Un petit partenariat à placer? Comment ça se passe?
Non, c'est vrai que si... je suis un gros consommateur de...
Il y a du miles.
Il y a du miles, exactement. Et puis voilà, les versions, la version classique, on en a donc 2 ici, une dans la boîte prête à partir, et puis on en a une douzaine qui sont réparties sur les tournois pour parfois éviter de voyager et que les machines nous attendent d'une année sur l'autre, ce qui peut ne pas faire de mal.
Donc là, tu as dit 23 kilos?
Là, on est sur un ensemble, on doit être à peu près à 28-29 kilos.
Et là-bas?
Pas loin de 85.
Ah oui, d'où le petit régime qui fait du bien.
Ouais.
Et sur la différence de prix, ça se vaut, c'est pareil
bah, ou... En fait, la base est la même, hein, donc on achète les deux machines. Voilà. Ça, c'est vraiment un projet qu'on a monté avec mon père qui bricole extrêmement bien.
D'accord.
Ce qui fait qu'on a pu, voilà, on a pu créer une machine qui me permet de partir en dernière minute si je suis appelé et qu'il faut que je monte dans l'avion le plus rapidement possible. Je sais que je peux partir avec une machine, alors que celle-ci voyage avec des transporteurs comme UPS, FedEx, qui sont extrêmement coûteux, avec toutes les problématiques de douane, toutes les problématiques du transport qui prend du temps et qui ne me permet pas de faire de la dernière minute.
D'où le fait de louer des box à Melbourne, à Londres, à New York pour voilà, laisser les machines à l'année, c'est ça ?
Voilà, l'objectif c'est tous les tournois qu'on couvre, donc des 4 grands chelems au Master 1000, alors Paris on va l'exclure, mais la quasi-totalité on va louer un box, on va laisser les machines d'une année sur l'autre. Donc l'année prochaine, je pense que ça va être la dernière année, on va encore acheter des machines, ce qui nous permettra d'avoir un parc de machines complet. Et ce qui va nous faciliter la vie, baisser le niveau de stress, parce que bah, toute cette problématique-là, on n'a pas beaucoup de prise dessus. Une fois que la machine est part, s'il la perd, il la perd. S'il l'abîme, il l'abîme.
Ouais.
Voilà.
Ça t'est arrivé ?
On a, sur un tournoi, sur les 3 machines qu'on a envoyées, on avait 2 de cassées. Retards, c'est ça. Bon, c'est toujours un peu compliqué, et c'est vrai que avec le recul, j'aurais dû démarrer comme ça, c'est-à-dire investir et dès les premières années laisser les machines sur place. Mais bon, voilà, c'est le système que j'ai choisi maintenant, qui voilà, d'ici un an, voire au pire 2 ans, permettra d'avoir au moins une machine à chaque destination.
Et la douane, c'est combien pour repasser une machine ?
C'est le prix de la machine plus le coût du transport avec des normes qui sont locales. Donc ça peut varier de 300 à 400 euros à un peu plus, un peu moins. Il y a une notion d'incertitude importante et puis des formalités qui, en fonction des pays, peuvent être très compliquées. Hein. La Chine, j'ai mis 3 semaines avant de dédouaner ma machine. Donc,
le tournoi a été fini puis
voilà, et donc ça a été la première expérimentation de cette machine. Donc avec les soucis que j'ai eus, j'ai vu que c'était un peu compliqué. Je suis parti avec, ce qui m'a permis de revenir avec et en même temps, pendant le tournoi, de dédouaner la machine qui m'attend pour l'année prochaine.
Donc, patiemment.
Patiemment, alors, ouais.
Le tour du proprio.
Donc ici, voilà, en termes de machines, donc on a 2 machines à inertie. On va calculer le swing weight, l'inertie, donc relativement... classique comme fonctionnement, hein. On installe la raquette ici pour obtenir la mesure. On va faire un petit test en live, donc on va insérer la raquette et donc on va avoir donc l'inertie dans un plan horizontal, ce qui nous permet de le corriger quand il y a besoin de le corriger. Et donc littéralement ce chiffre là, plus elle est élevée, plus la maniabilité est compliqué, on va dire, mais par contre, on est récompensé au moment de l'impact, c'est-à-dire qu'on va transmettre beaucoup plus d'énergie à la balle.
Rien compris.
On a le temps. Une petite balance.
Le bon élève.
Une petite balance, une petite machine pour identifier l'équilibre d'une raquette. Ça, je ne vends pas de substance illégale, ça fonctionne
mais
pareil.
Le carillé.
Une imprimante 3D parce que le projet est éventuellement de recréer, alors je suis au tout début de l'expérimentation, mais de recréer éventuellement des choses qu'on pourrait utiliser, des butt caps, des palettes pour remplacer les manches. Donc voilà, c'est un projet que j'ai, alors je suis pas très très bon. Je tâtonne, et je pense qu'il va me falloir des mois et des mois, et sûrement une aide additionnelle pour maîtriser ça, mais du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans.
Une imprimante 3D comme ça coûte combien ?
On est aux alentours de 1200-1300 euros.
Et on peut en faire une raquette from scratch ?
En fait, on peut tout faire en termes de modélisation. Après, en fonction des composants, tout n'est pas pertinent. Les bureaux d'études, notamment Wilson à Chicago, sont capables de recréer, grâce à l'imprimante 3D, une raquette, un prototype, etc.
Okay.
Ici, on est juste sur une ébauche de travail. Ici, on a donc une machine qui me sert à qualifier la rigidité. Donc, on a plusieurs niveaux de rigidité. Alors, C'est bien de connaître la rigidité, mais on n'a pas beaucoup de prises. Donc c'est plus un outil de diagnostic,
d'accord,
plutôt qu'un outil dont je me sers pour ajuster, corriger,
comment
personnaliser.
Tu fais en mettant la raquette ?
En fait, on va positionner donc, cette partie-là ici. On va avoir cette petite manivelle ici là, qui va permettre d'abaisser sur le cadre.
Ouais.
Et du coup, on relie donc, avec un petit câble cette machine-là qui vient de transmettre les infos sur ordinateur. Voilà, donc je m'en sers peu, hein, je suis honnête avec toi. Mais par contre, ça permet de, si on a un souci, par exemple, sur une série de 10 raquettes, on est censé les avoir toutes pareilles en termes de poids, d'équilibre, d'inertie, et puis que le joueur nous dit, bah, attends Ben, je comprends rien, et celle-là, je peux pas jouer. Ben, on peut potentiellement vérifier si en termes de rigidité, on est sur ce qui est attendu, ou au contraire, ce qui est peut-être parfois... pas du tout attendu. Ce qui nous amène aujourd'hui, donc c'est ce gros moule, ce gros gaufrier qui
c'est ça le projet aujourd'hui.
C'est ce qui va nous permettre de concevoir, de mouler le manche de cette raquette parce que bah, elle est, comme tu le vois bien, elle est dépourvue de
matière. Exactement. Très très fine. C'est quoi
En fait, c'est le shaft de la raquette. C'est-à-dire que toutes les raquettes, à quelques exceptions près, sont conçues de la même manière. C'est-à-dire que on est dans la continuité du graphite. Et donc, on vient voilà derrière toute cette partie-là qui est on le voit bien ici. Donc, tu vois la partie jaune. Bah, la partie jaune, on est sur la partie externe de cette partie grise qui est voilà la partie grise qui est cette partie là.
Donc toi tu la reçois sans la partie jaune.
Voilà.
Et
elle arrive d'usine. Bah du coup on va.
Mais comment tu fais pour la recevoir sans la.
Bah ça c'est des demandes qui sont faites donc par Babola à l'usine directement. Ils envoient la commande en disant bah voilà pour cette série de raquettes on la demande sans PU, donc sans mousse polyuréthane. Et donc avant de la mettre dans le moule, ils la sortent et puis ils nous l'envoient telle qu'elle.
Ok. Donc juste une précision, ce contenu est entre Benoît Mauguin et Tennis Légende, hein, c'est tout. Et évidemment, Joe Tsonga, qui t'avait contacté à l'époque pour ce projet, est-ce que tu peux nous le raconter ?
Ouais, alors, la Custo pour ma société a toujours été un outil, une solution pour nos joueurs. C'est-à-dire que ça n'a jamais été la Custo pour la Custo, c'était comment on peut répondre aux problématiques de Custo si nos joueurs en ont.
Ouais. Est-ce que tu peux préciser le nom de ta société ?
Donc Nec Plus Ultra,
ouais.
Voilà, qui est la société que j'ai créée il y a en 2014.
Petit aparté, je t'ai filmé pendant Wimbledon, si vous voulez retrouver des images sur un grand chelem avec l'agence Edge.
Exact. Qui fait partie voilà, de la clientèle sur les grands chelems. Et donc avec Joe faisait appel à un autre prestataire et avait montré un peu d'insatisfaction sur le rendu, sur voilà, et se posait des questions s'il pouvait pas avoir ce qu'il cherchait. Donc en fait, Joe avait un souci avec la forme et la taille du manche tel qu'est proposé par Babola. Donc ça, c'était la raquette qu'il avait. Et donc c'est celle qui voilà, il avait identifié que en termes de forme, en termes de taille, c'était pas exactement ce qu'il voulait. Donc on a cherché des prestataires autres. Il n'a pas trouvé chaussure à son pied. On a sollicité Babola qui, voilà, grosso modo, disait bah voilà, nous on produit les raquettes de Joe, on peut lui faire une demi-taille, etc. Mais voilà, voilà ce qu'on peut proposer. Et donc Joe a pris l'initiative de me demander et de dire bah Ben, moi j'aimerais que tu te lances. Voilà, est-ce que tu peux essayer de me trouver une solution ? Donc. Bah oui, j'avais des idées, mais pas forcément beaucoup d'expérience dans le milieu. Mais voilà, je me sentais capable de trouver une solution, ou du moins de tenter d'apporter une solution. Donc on a mis par écrit ce que Joe cherchait, donc on a vraiment bien déterminé la forme.
Tu peux nous redire les grandes lignes ?
Les grandes lignes, c'est en fait, il a pas toujours joué avec Babola. Et... Quand il a basculé chez Babola, il avait un...
Il était cool, ça, d'abord.
Ouais, tu me le fais dire, du coup.
J'ai été ramasseur de balles de Joe au futur de Nevers. Il avait 16 ans. C'est vrai qu'il était en Wilson à ce moment-là.
Et en fait, il a préféré la forme de Wilson. Donc, en fait, il voudrait, dans un monde idéal, jouer avec le cadre Babola, qu'il adore, et le manche Wilson qui préfère.
D'accord.
Donc ça, forcément, Babola décline cette volonté de copier une marque concurrente pour ça. Et donc moi, donc, je mets premier objectif, recréer le manche Wilson. Et moi, j'ai toujours eu, par rapport au travail des cadres, cette volonté d'éviter d'utiliser les agrafes. En fait, quand on prépare, on va donc récupérer parfois les raquettes dans cette configuration-là. On vient y insérer des embouts, des butt caps, comme ça. Et on vient le fixer par des agrafes.
D'accord.
Et le problème des agrafes, pour moi, c'est que on vient endommager le cadre. Ici, on a des zones de fragilité qui se traduisent par la casse du PU. Ça, ce sont les endroits où on a mis les agrafes. Donc, ça vient créer une zone de fragilité. Et puis, ça vient créer surtout beaucoup de friction, beaucoup de vibrations. Parce que du coup, on vient faire des trous dans le carbone. Donc, on a au moins 4 agrafes qui viennent traverser le carbone et qui viennent créer des zones de vibration.
J'ai les agrafes.
Super. Donc ça, moi, ça a été le deuxième axe de travail, c'est-à-dire on va faire un moule, certes, mais on va faire un moule qui va englober la totalité de la forme. Parce que je ne voulais pas devoir réagrafer les embouts, etc. Et c'est pour ça que du coup, on est arrivé... Alors, ici, il me reste les versions pas forcément finies, mais parfaitement finies. Mais voilà, du coup, on a... le produit fini ressemble à ça. Donc ça, voilà.
J'ai tout spoilé d'un coup, là.
Comment ?
J'ai tout spoilé,
mais voilà, l'objectif, c'était de créer une forme intégrant cette partie-là, pour pas qu'il y ait d'agrafes, etc.
D'accord.
Donc voilà, donc ça, c'est une qui n'est pas, parfaite, donc c'est pour ça que je l'ai conservée. Peut-être que j'en ai une un peu mieux finie, celle-ci un peu mieux finie. Voilà, celle-ci est beaucoup mieux finie. Voilà.
Et alors, entre ces lignes couchées sur papier, ses envies, ses besoins, et le produit fini,
il fallait trouver l'outil pour pouvoir faire ça. Il va falloir trouver les composants, c'est-à-dire que comment on va faire pour avoir la mousse qui va bien, suffisamment rigide pour résister à la friction, à la casse,
ouais.
Parce que mine de rien, cet endroit-là est... est fragile, pas de mousse qui fonde au soleil, parce que quand il fait chaud en Australie, si le manche il devient tout mou, ça peut poser problème. Comment ça va réagir dans le temps ? Donc il n'y avait pas forcément beaucoup de certitudes de mon côté sur la maîtrise de ces composants qui sont de la mousse polyuréthane. Ce qu'on va utiliser, c'est une mousse c'est deux composants qu'on va mélanger qui vont former une pâte, et cette pâte-là va gonfler.
D'accord.
Donc en fait, on a plusieurs niveaux de réaction. Et à ce moment-là, on peut choisir une mousse plus ou moins dense, une mousse plus ou moins rigide, et faire aussi varier un petit peu le poids. Parce que plus la mousse est dense, plus le poids est lourd.
Ouais.
Donc il faut aussi être capable de supporter une raquette avec ce poids-là au total. Donc si finalement on fait une raquette, mais 40 grammes de trop. Bon, donc j'avais pas beaucoup de réponses par rapport à ça, donc j'ai pas mal tâtonné. Pour donner une ordre d'idée, ça a été un projet sur à peu près un an et demi.
Ah ouais, quand même.
Entre le go de Joe en disant ouais, je vais t'aider. Bien évidemment, il y avait une notion financière, donc est-ce que tu peux me faire des devis, voir un petit peu combien ça va me coûter, voir un petit peu aussi d'un point de vue technique quelles solutions on pouvait proposer, parce que j'avais pas forcément beaucoup de certitudes. Jusqu'au premier prototype réellement utilisé par Joe, il y a plus d'un an, ouais.
Est-ce que tu peux nous dire comment tu as connecté avec Joe ?
Joe faisait partie de mes clients sur la problématique cordage. Donc on l'accompagnait sur les grands chelems et le Master 1000, hein, le package qu'on propose.
Ouais.
Et puis au bout de quelques mois de collaboration est venue la problématique de la raquette. Est-ce que tu peux m'aider sur ce volet-là, quoi.
D'accord. Donc, okay. Avant de le signer dans ta société Net Plus Ultra, comment du coup vous étiez arrangé ? Ah, ça on peut pas le dire ça.
On va dire qu'on a quelques histoires communes loin du tennis.
Ah ah,
Non, mais on a moi je suis de 86, Joe est de 85, je suis un peu voilà, contemporain d'eux, je suis arrivé sur le circuit un tout petit peu après eux. Entre Français à l'autre bout du monde, bon bah on crée des liens. Et c'est vrai que j'ai connu Joe avant qu'il soit mon client.
T'as fait la bringue, quoi.
Voilà.
Tu fais de me dire que t'as vu des typons avec Joe.
Et puis après, ce qui est drôle, c'est que bah, Sugar a 3 mois de plus que mon fils, donc on a abordé les problématiques de préparation à l'accouchement, de ceci, cela, en même temps. Ouais, donc à un moment donné, on n'a plus du tout parlé tennis, on a parlé couffin.
Et j'ai lu le bouquin de Daniel Bombardier qui reçoit les joueurs sur les tournois français, qui disait que certaines fois, Joe rentrait du tournoi le soir, il était sur la terrasse de l'hôtel en train de s'en griller une. Et qui venait lui taxer une cigarette. Sacré Joe.
Ah bah oui.
C'est sympa de savoir ça après coup, ça humanise un peu plus. Un peu non, comme cette raquette qui a été fracassée d'ailleurs, que je n'avais pas encore vue.
Ouais. Après, c'est, voilà, c'est, ça reste des...
Des humains.
Ça reste des humains, ça reste des mecs incroyables, parce qu'en plus du joueur extraordinaire, c'est un mec incroyable, que j'ai eu la chance de côtoyer d'un point de vue professionnel, et parfois même un peu personnel, parce que bah ouais, on a eu... une collaboration étroite, on s'est connus avant et puis on continue à échanger et encore maintenant, voilà, je m'occupe de ces raquettes avec grand plaisir.
Donc, dans cette année et demie de recherche et de, voilà, de tâtonnement jusqu'au produit fini, qui es-tu allé chercher? Comment tu t'es entouré? C'était quoi pour arriver à cette machine de guerre?
Je savais que pour aller au bout de ce projet-là, il me fallait une vraie compétence et j'ai cherché... des gens qui étaient capables de travailler du moulage, de l'injection, etc. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui font que ça. Ouais. Et pas très loin d'ici, il y a une société qui est vraiment spécialisée dans la création de pièces pour l'aéronautique, pour même la version militaire, enfin voilà, pour des choses très très précises. Et j'ai eu un coup de bol incroyable parce que j'appelle, je tombe sur un ingénieur, je lui explique brièvement le projet et grosso modo, il me répond moi, je travaille avec Safran, on fait des pièces pour les Mirages. Bon, votre projet de tennis, ça m'intéresse pas, ça rentre pas dans notre clientèle habituelle. Est-ce que je veux bien croire, sous-traitant de Safran.
Tu googles et tu trouves son compte.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai sollicité une dizaine de sociétés et dont celle-là, ça a été peut-être la deuxième que j'appelle. Et à côté, enfin, il était en haut-parleur et à côté, son collègue dit mais attends, c'est du tennis, passe-le-moi. Bon, donc j'ai un nouvel interlocuteur, je lui réexplique. Il me dit, mais c'est les raquettes de tennis que vous voulez faire hein? Je lui dis, non, je veux juste faire la partie du manche, etc. Mais par contre, j'ai besoin d'une solution, voilà, travailler avec des matériaux. Je pense qu'il me faut de l'acier, voilà, qu'est-ce que vous faites, etc. Et grosso modo, il me dit, attendez, laissez-moi un peu de temps, j'appelle mon chef. Voilà. Et grosso modo, cette personne, sur son temps libre, voilà, s'occupe de mon projet et m'aide à monter le projet d'un point de vue technique. Parce que bah, très clairement, moi je suis tout seul, je vais refacturer certes un millionnaire, mais bon, il va pas déterminer, il va pas mettre 200 000 euros dans la création de cet outil. Ouais. Et puis même en termes moi, d'exploitation commerciale, je vais faire 50 raquettes par an. Bon, on a bien vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de débouchés, si ce n'est répondre à la problématique de mon client.
C'est et ça, ouais. Joe, c'est 4 séries de 12.
Bah voilà,
12 les par grand chelem.
Ouais, c'est ça. 4 séries de 12, ça faisait voilà, entre 40 et 50 raquettes par an.
Et on est en quelle année? Il est encore à quel classement à ce moment-là?
Bah, nous, on a commencé en 2015, je crois. Il était encore en haut de l'affiche.
Encore top 20.
Oh, oui, et puis ça, bon, c'était la bascule sur la dernière partie de sa carrière. Mais il y avait cette volonté voilà, de bien finir et puis surtout de s'enlever cette problématique de la tête et de se dire que bah, voilà, si un jour j'ai ma raquette telle que je le veux, voilà, ça ne sera plus un souci, etc. Non pas que ça explique éventuellement certains résultats en deçà de ses attentes, mais voilà, ça a toujours été un sujet de réflexion. Et moi, mon challenge, c'était de répondre à cette problématique-là en disant, voilà, je sais ce que mon client il veut, est-ce que je suis capable d'avoir quelque chose à proposer? Et donc, du coup, la personne du bureau d'études me rappelle en disant, voilà, est-ce que vous voulez passer demain? J'ai un petit peu de temps, expliquez-moi, vous venez avec tout et on regarde ce qu'on peut faire.
Le gars au téléphone, tu lui avais dit que c'était pour Joe Wilfried Tsonga?
Je lui avais pas forcément dit que c'était pour Joe Wilfried Tsonga, c'était pour un joueur professionnel. Et puis, bon, il n'y avait pas de confidentialité et d'autres mesures, mais voilà, lui était fan de tennis, donc voilà, quand je lui ai mentionné que c'était pour Joe, il me dit, ouais, c'est bon, on va trouver du temps, etc. Son chef Ils ont été très sympathiques sur la facturation parce que bah on n'est pas, on n'a aucune notion de volume. Bon, l'acier, ça, c'est quand même pas, on sait pas de l'or, mais c'est pas donné non plus. Et du coup, on démarre et la chose la plus surprenante, c'est que moi j'ai la solution que je veux, mais eux ont tous les obstacles à franchir, c'est-à-dire voilà, nous. On va faire ça, mais par contre, on ne peut pas se permettre de le faire de telle manière parce que ça ne va pas le faire. Avec eux, leur raisonnement d'ingénieur, leur raisonnement de chef de projet pour que on ait une solution qualitative dans le temps.
Et un degré de précision exceptionnel, non ?
Ah, eux travaillent au nanomètre.
Ça représente quoi ?
Ouais, c'est des mi-mi. Il faudrait regarder l'échelle, mais c'est. Enfin, ils sont au micron, donc c'est-à-dire que c'est. Ils n'ont pas de marge d'erreur, en fait, eux.
C'est-à-dire que tu as fait des manches de Joe dans le temps qui étaient à la perfection.
En fait, non, c'était plus de savoir, eux, en termes de design, ce qu'ils s'autorisaient comme marge d'erreur.
D'accord.
Parce que eux, quand ils travaillent l'acier, ils travaillent l'acier au micron, je pense.
Ouais.
Ils n'avaient pas besoin d'aller aussi loin dans la découpe, etc. Par contre, à chaque arête, j'y manque d'y laisser la peau, quoi.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais, quand je...
C'est ultra.
C'est-à-dire qu'il faut que ça s'emboîte tout au millimètre pour qu'il n'y ait pas de perte, que la forme soit toujours identique, qu'il n'y ait pas de jeu. Donc finalement, tout est vraiment au millimètre.
Et alors, comment t'expliques le côté un peu foiré
C'est la non-maîtrise des composants.
D'accord.
Ouais, c'est-à-dire que la première des donc ça, c'est la deuxième étape, on va dire, la première étape, c'était de concevoir donc ce moule. Donc comment on va faire le trop-plein, comment on va faire pour éventuellement changer les empreintes, parce que du coup là on a une empreinte pour un type de raquette, une forme, mais l'objectif c'est éventuellement pouvoir en changer. Comment on va faire pour l'utiliser. Là c'était vraiment le fonctionnement.
Ça fait combien, ça ?
Moi, tout seul, j'arrive pas à le lever. Donc, tu peux y essayer, mais...
Il y a eu combien d'essais avant d'avoir ce moule final ?
Alors ça, le moule, c'est la première version,
ouais.
La seule. Ce qu'on a fait évoluer, c'est que je me suis vite rendu compte... Voilà, ça, c'est le premier ajustement qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a créé un système de chauffage. Parce qu'en fait, l'acier, c'est très froid. Et les composants que j'utilise, la mousse... Elle est très sensible aux variations de température. Donc, du coup, il a fallu faire en sorte que le composant travaille à sa température. C'est-à-dire que les composants, je les chauffe à 23 degrés et l'acier, je le chauffe à 23 degrés. Donc, ça a été la. Parce que, du coup, les premières séries, j'avais. Enfin, ça ne marchait pas. Je mettais la raquette dedans. Le composant ne réagissait pas, on ne réagissait pas beaucoup. Je regardais le descriptif technique. On me dit, on était sur x4 en termes d'expansion. Je me retrouvais avec un truc tout petit. Bon, j'ai merde, etc. Et là, je pose ma main dessus et je me dis, putain, mais c'est froid parce que l'acier, la thermodynamique de l'acier est très importante. Et donc, du coup, je me dis, attends, il y a un souci. Ils ont mentionné 23 degrés de truc. Là, on est loin des 23. Donc, je rappelle... mon contact au bureau d'études, je dis j'ai un souci, comment on peut faire ? Et donc du coup, il me propose de percer, donc ici, ils ont percé l'acier pour introduire un système de chauffage, une espèce de chaufferette reliée ici, qui me permet de le connecter à ce petit dispositif qui me permet d'avoir une température constante.
D'accord.
Donc ce matin...
C'est ingénieur quand même.
Ah, ils sont incroyables. J'y serais... Enfin... C'est aussi pour ça qu'on les paye, c'est-à-dire que cette expertise-là, problème-solution. Voilà, on est aussi simple que ça, problème-solution, et en toutes circonstances. Donc du coup, ça a été l'optimisation de ça, et à partir de là, j'ai pu maîtriser un peu plus facilement les composants, et dans ce cas-là, on arrive, on a des petits ratés, mais grosso modo, on arrive sur des choses qui sont relativement propres.
Ouais.
Et c'est un peu comme tout, avec l'entraînement et avec le temps, on devient un peu plus efficace.
Démonstration
Démonstration, bah alors on va s'y mettre parce qu'on a, on a un peu de boulot.
Alors là, juste du contexte, t'as reçu 8 raquettes.
8 raquettes.
Parce que Joe fait le Champions Legend.
Ouais, et puis que même les dernières raquettes que je lui ai envoyées datent de... bah de sa dernière danse, hein. Donc c'était la, il me semble que c'était Monaco avril de l'année dernière, donc ouais. Voilà. Donc la première étape, c'est de préparer le...
Il y a un circuit, Senior Légende.
Ouais, Senior, puis il y a quelques exhibitions, et puis je crois que Joe est quand même pas mal sur le terrain.
À la Oline.
Donc mine de rien, bon, bah, voilà.
Yes.
Ça, une petite série par an, je pense que voilà, ça, ne serait-ce que pour changer la... la cosmétique, pour faire plaisir à son sponsor.
Bien sûr.
Voilà. Du coup, on va voir un petit peu des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Le contrôle qualité en usine en Chine, voilà comment ils corrigent d'éventuels écarts. Donc en fait, on a cette petite fente qui permet de lester la raquette.
Ouais.
Et donc on imagine que quand on rajoute la mousse, bon bah ce truc-là on le voit pas quoi. Et ça, mine de rien, ça pèse, je sais pas, on va dire une quinzaine de grammes, je pense. Peut-être même un peu plus. On est à 25 grammes.
Et alors attends. Ça, il le laisse dedans ?
Ouais.
Mais ça n'a pas lieu d'être.
Si, en fait, quand les raquettes sont produites, pour arriver au poids déterminé, si par exemple on veut à 315 grammes,
ouais.
En usine, avant de mouler le manche pour faire cette forme-là, on vient le déposer, etc. Ce genre de truc. Est-ce que ici, là tu vois, regarde, on le devine même. Tu vois, dessous, on devine la petite plaque là qui est comme ça. Donc si vous voyez des petites plaques comme ça, ça veut dire que ça a été des rajouts de poids qui permettent de lester la raquette dans le process de fabrication.
Et à ce moment-là, le poids est en manche, c'est voulu ou...
C'est un endroit hyper pratique pour ajouter du poids. Ouais. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que c'est vraiment du carbone, des feuilles de carbone qu'on vient ajouter pour mettre du poids. Ouais. Là, mine de rien, on a une fente qui est prévue pour ça.
C'est optimal. Ok, intéressant.
Donc moi je les enlève parce que je préfère après le maîtriser, le rajout de poids.
D'accord,
les raquettes sont elles sont toutes, alors la forme peut varier, mais on a toute une cavité qui permet d'injecter du silicone, de l'époxy, etc. Et donc de faire varier, donc de rajouter du poids. Donc c'est pour ça que moi dans le moule, il a fallu que on ait un système qui permette de maintenir... la raquette bien à plat, mais surtout qui laisse la possibilité de travailler le manche après a posteriori.
D'accord.
C'est-à-dire que si on n'avait rien mis et qu'on avait... la matière, un, aurait pu rentrer, et puis deux, s'il fallait percer pour pouvoir injecter quelque chose dedans, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Là où les ingénieurs sont incroyables, c'est qu'ils ont tout prévu. Ils savaient que j'allais recevoir la raquette pas forcément coupée comme il fallait. Donc du coup, ils m'ont créé un petit gabarit.
Tu leur avais donné les cotes au...
ils ont tout fait. Et donc du coup, j'ai la petite fente pour pouvoir couper la raquette bien au endroit où il faut. Donc, on va jouer un petit peu de la scie à métaux. Ah bah là, c'est l'artisanat... Donc ça, du coup, le surplus, on n'en a plus. Et donc, du coup, on a la bonne taille pour pouvoir l'insérer. Ça, c'est une petite butée qui permet à la raquette de ne pas repartir vers l'avant. Voilà. Et donc là, on a... le plus important, donc, c'est cette empreinte-là qui va déterminer la forme. Et aussi la partie ici qui va déterminer donc, la partie... le fameux butt cap. Pour te montrer un jeu d'empreintes, ça ressemble à ça. Voilà, et on peut faire varier la forme. Parce qu'en fait, le gros problème du moulage, c'est que soit on fait quelque chose de grossier Et grosso modo, on a un moule qui permet d'accepter presque toutes les raquettes, mais elles sont jamais bien centrées, elles sont jamais bien tenues. Si on fait des choses qui sont très précises, elles ne sont malheureusement presque valables que pour une raquette. Notamment cette partie-là, qui finalement, bah voilà, cet espacement-là, bah il faut aussi la prendre en compte. On n'a pas toujours la même épaisseur, la même forme, etc. Idem pour le travail ici, il se peut que d'une marque à l'autre, on n'ait pas la même forme, etc. Donc moi, cette forme-là, elle ne fonctionne que pour Joe, enfin au moins pour les modèles comme ça. Donc moi, j'utilise une mousse qui est très dense. Donc là, je fais un petit peu de bricolage. Comme la mousse est très dense, j'essaye de pas trop en mettre.
Parce que plus je vais en mettre... Recherches des...
Ouais, bah ça a été beaucoup de tâtonnements. J'ai cette cavité-là, je vais la remplir de coton pour éviter que la mousse vienne ici. Parce que mine de rien, cette quantité, cette place-là, sur la mousse, on est à pas mal de poids, pas mal de rajout. Donc du coup, je viens calfeutrer ici.
C'est quoi l'intérêt de mettre de la mousse ? Du coton ?
Ça évite les bulles.
D'accord.
C'est-à-dire que plus j'ai d'air, etc., plus j'ai de risque d'avoir des bulles. Et du coup, je viens mettre par-dessus...
ton bâton de glace.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment pour masquer la fente. Parce que je me suis rendu compte quand... déjà, c'est beaucoup de quantité de produit. Le produit n'est pas donné. Et puis surtout, le produit, une fois qu'il a durci, il est lourd. Et je suis parfois au-dessus du poids. Donc j'ai plus la possibilité de corriger. Et du coup, je me retrouve un peu coincé.
D'accord.
Donc ça, voilà, j'ai la première partie du travail. Donc je vais venir la positionner... Voilà, on va venir boucher un petit peu les deux conduits, parce qu'en fait le moindre travail, s'il y a des débris qui viennent, c'est des débris qui viennent se propager dans toute la partie du cadre. D'accord. Et quand ça fait les maracas, généralement quand on entend les bruits, etc.
C'est des... pas celle-là.
Bah non, mais c'est que c'est toujours désagréable, et c'est surtout des petits bouts qui traînent et qui finalement sont issus du travail quand on a... quand on met des agrafes ou quand on vient travailler a posteriori. Voilà. Et donc maintenant, on va s'occuper... je vais juste mettre un petit... Ça, c'est pour que le démoulage soit un peu plus facile. Okay.
Fait d'huile d'olive.
Exactement. Tout est biodégradable, bien évidemment. Éco-responsable, tout ce que tu veux. Mais ça permet, normalement de mieux démouler, etc. Nous, dans le tennis, si on avait la problématique environnementale, ça se saurait. Hein.
Je crois que les cordages vont être recyclés là, de plus en plus pour faire du textile.
Oui, non, il y a plein d'initiatives.
Déjà, mais, ça c'est pas mal.
Mais on est déjà sur... on utilise du plastique en permanence, nous.
Hein. Ouais.
Enfin, les raquettes, c'est... C'est que des matériaux non recyclables. Non, il y a beaucoup de choses qui pourraient évoluer.
Et sinon, tu m'en parles de l'époque où tu avais encore de la couleur sur tes cheveux.
Ça date.
Tu mettais de la bombe aussi.
Ouais, presque. Hein. Là, 2014, regarde, pas mal.
Ouais. Ah, ça commence là.
Ça, c'est une des premières en privé, ça. Tu vois, regarde. Madrid.
C'est beau, ça.
Andy Roddick.
T'es jeune, hein.
C'est mon premier tournoi en privé.
Ah, t'as été avec Roddick ?
Ouais.
Énorme. Sharapova aussi, t'avais, non ?
Sharapova, Roddick, Lubicic, Tomias, Sibulkova, Robredo.
Ah ouais,
ça a été ma... Ouais. Bah, moi, j'ai eu la chance de travailler avec un peu mes idoles de jeunesse.
Énorme.
Donc là, on va préparer le composant. Un composant A, un composant B, qui vont se mélanger et qui vont durcir. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, 1 minute 30, 2 minutes. Entre le mélange, le fait de le déposer et le fait où ça commence à prendre forme. Et il faut 2 heures pour que le composant se soit stabilisé, etc. Donc en fait, il y a un temps de cuisson de 2 heures.
Ça a été des tests aussi pour trouver les bons...
Ouais, bah, pas mal de fournisseurs, pas mal de, comment dire, de mousses différentes. J'en ai trouvé une que j'arrive à peu près à maîtriser. J'aimerais éventuellement utiliser moins de composants pour alléger les raquettes, notamment pour des joueurs qui jouent avec des raquettes moins lourdes. Voilà, je suis encore dans la phase de test.
Ouais.
Mais pour Joe, voilà, j'ai un peu de recul pour en avoir fait pas mal de séries. Maintenant, je sais qu'avec cette mousse-là, ça va. Et puis c'est en termes de dosage, ça va. Maintenant que la température est maîtrisée.
Et depuis Joe, tu as eu d'autres demandes similaires maintenant ?
On fait des tests un peu comme ça. Moi, le gros problème, c'est que j'ai pas la version test pour pouvoir faire une version prototype et dire bah voilà, c'est ça que je vais vous proposer.
Ouais.
Soit le joueur est 100% sûr et dans ce cas-là, bah, je fais une empreinte et je peux la dupliquer, mais j'ai pas l'étape intermédiaire. Peut-être qu'avec ça, ça me permettra d'avoir la forme prototype, mettre entre les mains des joueurs. Voilà. Et puis comme moi j'ai toujours fait donc la custo dans le sens mes joueurs, est-ce qu'ils en ont besoin, je le fais.
Ouais.
Bah, dans mon pool de joueurs actuels, ils sont très bien avec leur prestataire, soit de leurs équipementiers ou extérieurs. Bon, j'ai pas de besoin, personne de mes joueurs m'a sollicité dans ce sens-là.
D'accord.
Et pourtant, on a des manches qui ont du mal à résister.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Assister aux agrafes et si Wilson notamment n'arrive pas à régler cette problématique-là, peut-être que certains des joueurs Wilson avec qui je travaille pourraient passer le cap. Donc c'est ces deux produits-là qui réagissent entre eux.
T'es bien là quand même dans ton bureau. Hein.
Ah bah c'est en plus, imagine, donc j'ai une série de 8, 10, 12 raquettes et il faut que j'attende 2 heures.
Ouais.
Bah, du coup, j'en mets une avant de dîner le soir, j'en mets une le matin en me levant. Voilà, ça aussi, ce côté très pratique. Et donc voilà, on va partir sur le... Donc pareil, pour trouver les seringues qui fonctionnent bien, c'est pas simple. Et celle-ci, c'est des seringues à colle. Donc on vient mélanger la première partie. On peut rajouter un colorant hein, si on veut colorer les raquettes, si on veut faire en... Enfin, les raquettes, le manche.
Si vous voulez envoyer vos raquettes à Benoît Mauguin et colorer les manches, n'hésitez pas.
Il faut que ce soit la bonne raquette avec la bonne taille et elles sont rallongées, celles de Joe, donc ça va pas, ça va pas plaire à tout le monde. Après, pour tout aéro, oui, ça c'est bon. Donc là, ça y est, c'est parti, je mélange. Et donc là, le dans quelques secondes, le composant va réagir, on va sentir une chaleur autour du verre en plastique. Et du coup, je vais venir déposer donc sur toute cette partie-là qui va permettre. Et là, du coup, il y a aussi la petite pastille pour faire la trappe d'or, là, la petite porte d'entrée à la custo. Et du coup, voilà. Donc, je viens déposer grossièrement un petit peu tout ça. On va en profiter pour en mettre là. Hop. Et donc cette mousse-là, elle est censée doubler de volume. Donc on fait x2.
D'accord.
Donc c'est la plus dense. J'utilise parfois de la x4. C'est-à-dire que pour la même quantité de composants, je vais faire un volume 4 fois plus important. Donc en fait, ça vient venir plus... ça prendra plus de place.
Ouais.
Donc là, hop, je verse tout, je ferme vite. Et là, je viens donc fermer au maximum pour bien plaquer la, la plaque, même si c'est très lourd. Il faut vraiment s'assurer que les deux plaques soient les plus rapprochées possibles. Et donc il est quoi? Il est 3h10, ça. On peut revenir vers les coups de 17h et normalement on aurait quelque chose de qui ressemble à un manche de raquette. Dès que ça se libère, on en lance une,
d'accord,
etc. jusqu'à ce que la série soit complète.
Combien d'essais comme ça, de tests, de foirades, de coups
de colère? Je me suis énervé un paquet de fois. Ouais. Je me suis énervé un paquet de fois. Le côté le plus frustrant, c'est d'avoir si peu de connaissances, on va dire chimiques, parce que mine de rien, là, c'est de la chimie. C'est deux composants qui réagissent. Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Est-ce que je pourrais le faire un peu plus rigide? La première, elle casse entre les mains. Je suis dégoûté. Le résultat était parfait. Et là, je me rends compte, je me suis dit, ouais, j'étais sur du x8 en termes d'expansion. Bah, du coup, ouais, il fallait que je densifie, donc j'avais une problématique de poids. En fait, un vrai scientifique, un ingénieur, un chimiste, il maîtriserait beaucoup plus facilement, il ferait des projections en fonction du volume, en fonction de ceci. Moi,
t'en as sollicité, du coup, ou pas?
Non, j'ai vraiment fait... Bah, non, mais j'ai essayé, et puis j'ai pris ce qui marchait, j'ai pris ce qui marchait pas, et puis voilà, petit à petit, j'ai trouvé la bonne formule, mais je pense que quelqu'un avec des notions dans ces disciplines-là aurait gagné du temps. Mmh. Ils auraient fait, voilà, il y a X centimètres carrés, centimètres cubes à remplir, on est à x2, x4, donc je m'étends, je mets tel... Là, je fais toujours moins moitié-moitié. Mais il y en a qui font un tiers, deux tiers, d'autres qui rajoutent un durcisseur, etc. Il y a plein de formules possibles. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé sur ce que je voulais faire. Voilà, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, voilà, j'y arrive plus, etc. Dès lors où j'avais résolu la problématique de la chaleur, j'avais plus de... Ça a été le plus gros pain point du process. Donc là, malheureusement, le temps, on peut rien faire.
Incompressible. Après, une fois que c'est prêt, il y a encore Joe qui te dit, ça va ou ça va pas, quoi. Il y a les sensations, non?
Alors, le rendu final, bien évidemment, qu'il est sujet à l'appréciation du joueur. Joe s'est rendu compte que finalement, la taille demandée était un peu trop petite. Enfin, un peu trop grosse.
Okay.
Donc ici, on est sur le deuxième jeu d'empreinte. On a fait une empreinte, grosso modo, 1 mm sur chaque côte en moins. Donc en fait, j'ai deux tailles. J'ai le gros,
ouais,
la version intermédiaire pour Joe. Du coup, ça a occasionné des frais, parce que du coup, l'empreinte, à chaque fois qu'on fait les empreintes, on sollicite le travail de l'acier et le design de tout ça. Donc ça a été... Le seul aller-retour qu'on a eu avec Joe. Après, le reste, une fois qu'il l'avait, c'était bon. Et puis moi, j'avais fait plein de tests avant pour être sûr que je lui donne quelque chose qui est bon. Quoi. Pour pas que... Voilà.
Et
pas
perdre la face. Quoi. Le moment où tu mets le grip et le sur-grip.
Oh, c'est le côté sympa, ça.
Ouais.
Ça, c'est le côté...
C'est vraiment l'accomplissement, quoi.
Ouais, alors...
Non, l'accomplissement, c'est Joe qui te dit j'adore.
Ouais, c'est ça. C'est Joe en Australie qui me dit, ben, putain, je suis content, j'ai l'impression d'avoir ma raquette que j'ai toujours voulu avoir, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est ça vaudra jamais le. Enfin, c'est bien au-dessus de n'importe quel chèque qu'on peut récupérer de ce genre de projet.
Ouais.
Moi, je pense par rapport au temps investi, etc. Bon, bah oui, j'ai été rémunéré pour ça, mais je l'ai fait par conscience professionnelle, par volonté de trouver une solution sur mesure à une problématique d'un joueur qui gagne sa vie sur un terrain de tennis. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la satisfaction. Et puis aussi de se dire que on peut arriver à faire des choses avec du temps, avec une réflexion, avec s'entourer des gens qui sont compétents dans leur domaine. Voilà, au départ, j'étais parti sur des moules en bois. Hein.
Ah ouais.
Bah ouais. Des moules. Bah non, mais ça fait partie du process. Et je suis super satisfait d'arriver à un produit que je trouve en phase avec l'exigence du haut niveau. Faire un moule où on n'arrive pas à mettre une raquette dans la bonne configuration, je trouve que ça n'a pas de sens, quoi.
Et Ditor, tu l'avais sollicité, savoir?
Ouais, ils avaient échangé, alors je ne sais pas sur quel niveau ils ne s'étaient pas compris, Mais voilà, Joe m'a dit, ouais, Ben, j'ai échangé avec, avec Dieter, mais voilà, est-ce que tu peux pas le faire, quoi? Il a vraiment insisté.
Et toi, t'étais pas allé le chercher, Dieter, particulièrement, pour lui dire, bah, est-ce que tu peux m'aider un peu ou quoi?
Non, parce que bah, je pense qu'on a aussi un respect mutuel de concurrence. Voilà, on ouais. s'entend très bien. Je lui ai souvent envoyé des joueurs parce que bah, voilà, je le trouve plus pertinent que moi. Là, ça faisait vraiment, ça émanait d'une demande vraiment particulière. Benoît, ouais, essaye de, voilà, je sais que tu sais ce que, tu comprends ce que je veux.
Ouais.
Voilà. Et puis, bah, du coup, ça aurait été un joueur extérieur à mon pool de joueurs dont je m'occupe, j'aurais sûrement décliné. Mais là, ça faisait partie de, voilà, de cette notion d'accompagnement au 360 qu'on cherche à proposer avec la société. Cette vraie volonté de se dire bah oui, on va vous accompagner pour corder, mais grosso modo on va être une vraie solution pour des tests de raquettes, pour de l'ajustement, pour de la personnalisation, et que s'il faut créer un manche, bah, on peut le faire. Et maintenant je sais que je peux le faire dans ce process là qui est sûrement pas le meilleur des process, mais voilà, c'est ce que je maîtrise à l'heure actuelle.
Si on te leur demande, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par le soleil des Antilles?
Non, mais...
Et la castiponche?
Non, c'est, on en a discuté.
On peut mettre ton mail en description de la vidéo, non, pour mais... que les gens te demandent de la custo, par exemple.
Oui, la custo pour la custo, j'y crois pas. Il y a plein de cas de figure où je pense que la custo est un vrai catalyseur de performance. Les jeunes compétiteurs, il faut accompagner leur progression, leur croissance. Ça, c'est fondamental. Un joueur pro, la plupart du temps, il va avoir son équipementier qui lui propose ça. Si l'équipementier décline, bon, oui, à ce moment-là, je peux prendre le relais. On ne restreint pas notre activité à seulement les joueurs qu'on encadre, bien évidemment, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment identifier pourquoi on le fait. Et je n'ai pas l'impression que ce soit si fondamental que ça, à 2-6, d'avoir une raquette personnalisée, quoi.
Mais si on a envie.
Mais si on a envie, il y a un grand problème pour expliquer que bah, voilà, j'ai un revers à une main, j'ai du mal à recouvrir, est-ce que la custo peut m'aider? Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à poser mes mains sur le grip. On peut faire beaucoup de choses.
Ouais.
On peut faire beaucoup de choses. Au niveau professionnel, oui, c'est un impondérable, c'est leur outil de travail. Là, à ce moment-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas à freiner à la dépense. Après, en particulier, en fonction de la problématique, oui, c'est pertinent. Après, il faut aussi rester lucide sur ce que ça engendre. La majorité de la custo, c'est rajouter du poids.
Okay.
Donc, le moindre gramme qu'on rajoute, ça a une incidence.
Ouais.
En termes de contraintes, en termes de fatigue, en termes de, oui, de jeu, de puissance, mais le pendant négatif, c'est aussi éventuellement créer un environnement plus sujet à la blessure. Mmh. Et ça, avant de penser à la custo, penser aux paramètres dans sa globalité. Est-ce que ma raquette est adaptée en termes de poids, d'équilibre? Et que s'il y a une marge, et que cette marge-là, on veut l'optimiser, oui, faire appel à un professionnel, c'est, je pense, indispensable. Et un professionnel, un vrai professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas se contenter de mettre 5 grammes en tête de raquette. Parce que j'invite tout le monde à regarder comment on charge une remorque. Tu pars en vacances, tu dis tiens, j'ai pas de place dans le coffre, je vais mettre une remorque, je vais prendre ça. Et ben, la répartition du poids dans la remorque, elle a une incidence incroyable. Si tu mets tout le poids sur la fin de la remorque, tu vas avoir une voiture qui fait ça, incontrôlable. Et ben, imaginez que la remorque, c'est la tête de raquette. Et que si on met tout le poids ou beaucoup plus de poids en tête, et ben, c'est autant de contraintes qu'on vient créer pour toute la chaîne du bras, et qui finalement, on va récupérer, oui, plus de performance, mais à quel point, à quel prix? Ben, un abonnement chez l'ostéo. Voilà. Et c'est en ça où la custo est dangereuse. La custo est dangereuse parce que tu me dis, Ben, il faut absolument que mon kick soit meilleur, que la balle elle va plus vite. Bon, ben, je te mets 5 grammes en tête, 10 grammes en tête. Tu vas dire, non, mais Ben, c'est incroyable. Mais par contre, ce que tu ne vois pas, c'est qu'après la première impression, t'as toutes les conséquences. C'est-à-dire que t'as la fatigue, ouais. t'as la contrainte musculaire, peut-être que techniquement, ça va se désagréger, mais la première impression, elle est incroyable. Mmh. Tu joues avec une raquette, je faisais souvent le cas il y a quelques années avec Thomas Berdic, avec lequel j'ai longtemps travaillé. Tu vas jouer... regarde, hop, on va prendre celle-là. Regarde, elle n'est pas légère.
Non, clairement pas.
On est à... On va prendre la telle qu'elle a joué. Voilà. 370.
Pour ce bon vieux bûcheron de Thomas.
Voilà. Par contre, tu joues 5 minutes avec. Tu joues en ligne.
T'envoies que des briques.
Voilà.
Tu joues une heure avec, il n'y a plus personne.
Non, mais tu peux pas jouer une heure avec. Tu joues 10 minutes, tu es déjà fatigué. Mais les 5 minutes ou les 6 minutes que tu fais à bloc, où tu sens bien que là, tu as tout ton capital musculaire, hein, la balle, incroyable. Le son est incroyable. Et la sensation, elle est dingue.
Ah ouais.
Donc en fait, c'est là où la custo, elle est dangereuse. Parce que on dit, bah tiens, je vais te faire ta raquette, je vais mettre du poids.
Ouais.
La première impression du client, c'est waouh, c'est génial. Sauf que le long terme, enfin le long terme, même pas le long terme, mais le moyen terme, il est catastrophique. Donc faire de la custo pour ajouter du poids en tête, faire attention, beaucoup de précautions là-dedans. Le moindre gramme, et cette machine-là permet de le quantifier, c'est-à-dire que on va rajouter un gramme, on va faire monter l'inertie. Donc c'est-à-dire qu'on va rendre la raquette plus moins maniable, par contre on va donner plus d'énergie à la balle. Mais le moindre gramme se traduit par beaucoup.
Mais ça du coup là, pour revenir au bâtonnet de glace, tu ne le sens pas du tout une fois que tu as la mousse par-dessus?
Non, t'as suffisamment d'épaisseur pour que ça vienne, ça soit intégré dedans. Donc celle-ci, elle n'est pas hyper bien finie. Mais on le voit bien, hein, on le voit là, les deux languettes. On voit la petite...
D'accord.
Ouais. Donc ça, vraiment... c'est la version la plus fine. La version la plus épaisse, celle que tu avais en main précédemment. Donc on a un écart de 1 mm sur chaque côte. Donc que ce soit là et là. Mais du coup, voilà, il y a deux tailles...
Et pourquoi est-ce que tu tiens absolument du coup à boucher la petite cavité?
Ça évite qu'il y ait trop de matière qui rentre.
Ah oui.
Voilà. Je vais essayer du poids et après il faut l'enlever. Donc en fait il faut percer.
Ah oui.
Et du coup là tu as potentiellement plein de débris qui viennent dans ta raquette.
D'accord. Et donc là dans l'atelier tu as les raquettes de Rodic aussi?
Alors Andy Rodic, oui. Alors on va faire donc Sharapova ici, Thomas Berdic. Joe Tsonga sur des séries un peu bizarres. Pierre Hugerbert, de nouveau Joe, Serena, Rodic.
Serena, t'as fait aussi?
On a travaillé sur les grands chelems avec Serena, notamment Wimbledon.
D'accord.
Et puis ça, voilà, Andy Rodic.
Ils ont 15 ans, quoi.
Moi j'ai fait ma 12e, j'ai terminé ma 12e année à temps plein sur le circuit, on va dire. Et ouais, elles ont plus de 10 ans, les raquettes.
Tu trouves que ça vieillit vite, une raquette?
Non. Oh non, c'est juste les effets de marque, les effets de comment dire, c'est le marketing qui fait qu'on a l'impression qu'elles vieillissent, mais les raquettes, elles bougent pas.
Ah ouais. C'est vraiment la cosmétique, finalement, qui nous paraît vieillotte.
C'est ça, exactement. Les successions de cosmétiques, mais... Enfin, moi,
les technos, je trouve que ça évolue pas tant que ça.
Non. Non, même, je serais même, si je suis critique, je dirais même que ça régresse à certains points.
Ah ouais?
Je suis persuadé qu'il y a une époque où les raquettes étaient peut-être de meilleure qualité. Serena, Ben Père, hein, c'est plus facile de retrouver des raquettes cassées de Ben que des raquettes à un truc. Celle-ci, c'est un 8e à Wim, je pense, sur le Kubot. Sam Querrey, Samantha Stosur, Yelena Ostapenko, pareil, je récupère les raquettes cassées. Ben Bonzi, Hugo Humbert. Félix Lopez.
Il est là, le Félicien.
Ouais, là, c'est quoi? Là, c'est... Il y a un peu de tout. Là, c'est la Monf. Ancienne et nouvelle version. Alors, je dis version, hein. Je parle bien de deux raquettes complètement différentes, hein, qu'on ne se maîtrise pas, hein. C'est pas la même.
Ouais.
Félix, Ogier Aliassim, Garbini Muguruza, Vekic, Caro Garcia... Muguruza, voilà, si un jour elle se remet à jouer au tennis, elle aura des raquettes prêtes, que je pourrais préparer. Et Caro Garcia, toute la série 2024. Voilà. Il y en a 10 qui sont partis hier à Lyon. Et le reste, c'est pour la suite de sa saison. On a préféré tout faire venir, comme ça, on n'a pas de problème de livraison et j'ai fait 30 raquettes d'un coup. Oh,
elles sont magnifiques. Hein. Là, pour le coup, la cosmétique, je la trouve sublime.
Ouais. Puis ouais. Moi, c'est même plus facile à travailler parce que bah, on fait 30 fois la même chose au lieu de faire 3 fois 10. Voilà.
Et la différence, grippe en cuir et grippe non cuir, c'est quoi?
Alors là, pour Caro Garcia, il y a grippe cuir et puis aussi le fait de pouvoir laisser suffisamment d'espace pour superposer le surgrip. C'est-à-dire qu'on vient mettre, on va faire un flat grip. C'est-à-dire que on met, je vais te montrer sur une de ces raquettes. On fait coïncider la superposition du surgrip dans la petite fente entre le grip. Je m'exprime tellement bien que vous n'avez rien compris. J'avais compris qu'il fallait que je le montre.
Bon, en plus, je me suis levé à 6h28, mon gars. J'ai quelques absences.
Non, mais c'est toujours le problème de vouloir faire des phrases compliquées alors qu'il faudrait mieux faire plusieurs phrases très simples et on s'y retrouverait un peu mieux.
Pour ceux qui écoutent cet audio, allez sur la chaîne YouTube, vous y verrez beaucoup plus clair.
Vous comprendrez au moins. Donc du coup, je démarre comme... Voilà. Et l'idée, c'est... pour que le rendu soit le plus plat possible, on vient voilà, faire superposer cette partie-là et faire coïncider cette superposition dans une fente.
D'accord.
Voilà, donc en fait, le grip, il n'est pas collé. Il y a un léger écart quand on le pose. Ce qui permet, en fin de course, d'avoir un manche parfaitement plat.
Ça, du coup, c'est à qui?
Ça, c'est des tests en pagaille, ouais. Okay. C'est le test en pagaille, et là, on est sur donc Leila Fernandez. Tac, ouais. Tac, tac.
Des anecdotes sympas quand on fouille dans les acres. Si je t'en prends 3 au hasard, tu crois qu'on peut faire le truc ou pas?
Ah, on peut essayer, ouais. Vas-y, ouais, vas-y.
Celle-là, par exemple.
Vas-y.
Alors, Rolex, le Master à Shanghai.
Le Master à Shanghai 2012. Je pense que c'est la première raquette qui m'attend dans ma chambre. Voilà, j'ai rien à besoin de demander. Et là, tu te dis, oh putain, c'est cool, la vie est belle. Ouais.
Même pour les cordeurs, le service plus.
Ouais, parce qu'on a toujours été un peu, on est un peu en dehors, on n'est pas officiel, donc on n'a aucune raison d'être là, si ce n'est par la volonté des joueurs. Donc c'est toujours par l'intermédiaire des joueurs qu'on demande, et c'est vraiment la première raquette que je récupère. En sollicitant le tournoi, en disant voilà, je vais venir, j'ai besoin d'une voiture pour aller me chercher à l'aéroport. Donc traitement VIP, et c'est là où je me dis ouais, ça tourne pas mal là.
Énorme. Deuxième.
Deuxième, allez, vas-y. Alors,
Lawn Tennis Championship, c'est où ça?
Ça, c'est Wimbledon, ça. C'est les anciennes versions Wimbledon 2016. De 2016. 2016, Joss a son quart sur Murray en 2016. C'est ça, non?
Certainement.
Non, je sais rien.
Avec un mauvais avec les doigts.
Ouais, alors c'était le début. Ouais, je sais que ouais, j'avais dîné avec Joe le lendemain de sa défaite sur Murray. C'était un peu la soupe à la grimace parce qu'on avait quand même l'impression d'être passé à côté de quelque chose de grand parce que Joe, voilà, il jouait excellemment bien et ça passe pas loin.
Allez, dernière.
Toi, tu vas chercher loin. Hein.
Ah bah oui. Oh là! BNP Paribas, c'est quoi? C'est Miami, ça?
Ça, c'est Indian Wells.
Indian Wells.
C'est quelle année, ça?
On salue l'effort capillaire.
Ouais, ouais, j'avais des cheveux ouais, plutôt noirs à l'époque. Pas beaucoup de barbe. La barbe est arrivée à l'époque. Ouais. Non, Berdych, ça a été une très bonne collaboration qui s'est mal finie. Hein. On s'est mal compris. Parce que ça a fait partie des joueurs... donc il a fait partie de la liste des joueurs en privé dont je me suis occupé dès que j'ai basculé en privé. Des dissensions avec mon client de l'époque hein, qui était la personne qui chapeautait tous les contrats avec les joueurs et c'est lui qui me demande de partir en solo et que grosso modo il allait me suivre parce qu'on avait une très bonne relation de travail, une très bonne relation de confiance et finalement il s'est rétracté alors que moi je m'étais lancé. Donc ça a un peu refroidi notre relation et ceux qui étaient là à l'IPTL pourront en témoigner. On s'est expliqué devant un peu tout le monde sur cette exhibition en Asie. En Inde. Et je pense que les gens ont eu peur pour moi parce qu'ils se sont dit s'il lui en décolle une, il ne va pas se relever le Ben là. Et finalement Thomas a fait un peu à mon honorable en se disant que oui, il n'avait pas forcément été très réglo à cette époque-là et que il était content que pour moi ça n'ait pas eu d'incidence majeure, si ce n'est de me mettre un peu plus en difficulté qu'à l'époque. Mais moi je l'avais mal vécu sur le point de vue humain parce que c'était un mec que je trouvais très Très intéressant, et on échangeait en dehors du cours pour autre chose que le boulot. Mmh. Et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment d'avoir été trahi. Et donc, merci Maria de ne pas avoir fait pareil.
Tu m'étais. Chapeau.
Chicago.
Ah. Ça, les collègues. Ça, les collègues, ils vont être contents.
WTA 500.
Ouais. Alors, ça, c'est post-Covid, les premiers tournois en sortie de Covid. Pas grand monde qui veut faire des tournois et qui a la capacité d'organiser des tournois. Donc, Chicago enchaîne Challenger 250 et finissent par un 500. Et je reçois un message d'un mec de là-bas qui me dit « Je suis complètement dépassé. J'ai du mal à faire un Challenger tout seul. Il faut que je monte en compétence. Je vais jamais y arriver pour le 500. » Et nous, on devait aller à Indian Wells la semaine d'après. Donc, je lui dis « Bah, nous... c'est sur la route, on part une semaine plus tôt et puis on vient t'aider à faire le tournoi. Il avait besoin, je lui dis, on a besoin d'être quatre. Moi, j'ai trois personnes avec moi, enfin deux plus moi. Tu fais le quatrième et nickel. Donc on arrive, donc je mets à disposition les machines qui étaient aux États-Unis. Donc ça aussi, il s'en sort bien. On fait le job. Je crois que c'est le tournoi le plus désorganisé de l'histoire de la WTA. Pas d'éclairage suffisant, donc pas de jeu après 6 heures le soir, parce que c'est quand même pas une période très propice à ça. La WTA le sait en arrivant sur place, donc ça hurle dans les bureaux. Le directeur de tournoi se planque pendant toute la semaine. La bouffe, on a l'impression d'être en prison. Les transports, c'était grosso modo nous donner des coupons pour se débrouiller avec les taxis Uber, Lyft, etc. On avait des coupons, on avait des listes de coupons énormes. Donc ça a été un peu la débrouille. Et donc début des matchs, 9h. Ouais. Donc les joueuses arrivaient autour de 5h30, 6h, le temps de faire leur routine de préparation de match. Donc nous, on attaquait en même temps qu'elles. Non, ça a été très très folklorique. Très très folklorique. Et ceux et celles qui ont participé à ce tournoi-là, je pense, s'en souviennent. Et
il n'existe plus ?
Non.
Le WTA 500.
Non, on ne leur a pas donné d'autres chances.
Roland Garros 2011, photo poncée par les années.
Elle a pris le soleil, il devait faire chaud cette année. 2011, en privé, première année en privé. Ah, moi, je découvre tout, hein. C'est mon premier grand chelem de l'autre côté. Je comprends à ce moment-là qu'il y a une réelle opportunité d'inscrire ce job-là que j'avais pris non pas par-dessus la jambe, mais comme quelque chose de très ponctuel ou de voilà, très cadré dans le temps, qu'il y avait éventuellement un moyen de l'étirer sur du moyen terme. Et je me suis trouvé relativement épanoui parce que j'alignais mon exigence, le souci du détail, etc., dans un environnement beaucoup plus propice à ça. Quand on passe en privé, on a plus le temps, on est plus proche des joueurs, on peut échanger davantage, et du coup, ça me convenait beaucoup mieux, même si la charge de travail, elle n'est pas forcément bien moindre, mais elle est différente, hein, on a des amplitudes horaires encore plus importantes. Mais voilà, je comprends à ce moment-là que ça peut le faire, et que, voilà... Ça peut durer un moment.
Bonus, on ne l'a pas là, on ne l'a pas retrouvé, mes premières Coupes Davis.
Ah ouais, il y en a qui marquent, hein. Si tu me laisses choisir, je vais te sortir celle qui marque. L'Open de Moselle, pour mes amis de l'Est.
Quelle année ?
Bon, ça c'est Technifibre, on est en 2010. C'est une des derniers Open de Moselle, on a tellement fait la bringue que Julien Boutère nous en veut encore.
J'ai invité encore des serbes.
Il nous demandait d'arrêter les soirées parce qu'il était obligé de redemander à l'agence d'intérim des hôtesses pour sa soirée des partenaires. T'es pas obligé de le mettre, ça.
C'est
Pékin,
ça.
Pékin, ouais. Pékin. Ils avaient déjà l'HD à Pékin à cette époque-là, tu vois.
Quelle année ?
On est en 2012. Tu vois, regarde, c'est en Italie, on essaye un peu de faire le regard mystérieux. Ça doit être la seule, une des seules accrèdes où j'avais des sous dessus.
Ah ouais,
il s'était trompé, il m'avait filé le truc illimité de certains mecs, parce que Sharapova, et du coup...
j'ai fait 10 kilos.
Énorme, pas dépenser un centime en bouffe, j'ai fait le rat, midi et soir à l'Australie, quoi.
Parce que les joueurs, eux, ont combien, 150 par jour, non ?
Ouais, je sais pas, en fait, ils payent pas grand-chose sur la bouffe, c'est pris en charge. San José, il n'existe plus le tournoi. Début de tournée avec Roddick, je démarre aux États-Unis à San José pour finir à Miami. Donc 2 mois aux US. À l'immigration, ils m'ont posé des questions. Vous passez 2 mois de vacances, parce que j'avais pas de visa. Vous passez 2 mois de vacances aux États-Unis, tout seul. Bon, oui.
Et t'as pas fait une lettre à la VND ?
Non, non. Bah non, il fallait mieux rien dire plutôt que de dire un truc qui n'était pas forcément vrai.
L'US on dirait un peu granolaire, Marcel Granolaire.
Ouais, ouais, Marcel.
Il est là, hein.
Ouais, l'IPTL, ça, on l'a fait presque bénévolement. Parce que du coup, on a fait 2 saisons,
ouais.
Puis on a été payé qu'une. Comme les joueurs. Comme les joueurs.
C'est fair play.
C'est fair play, ouais, 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 ouais. Stockholm. Stockholm avec des noms un peu bizarres.
Ouais.
Ça, des finales ATP. 4-5 mars 2022, Pau. Première Coupe Davis. Première bon, Marseillaise, voilà, bizutage.
Survette.
Survette incroyable. Survette incroyable. Et puis. Un contexte incroyable, le fait que ça faisait partie de mes objectifs, de se dire que bah voilà, dans la reconnaissance du métier, il y avait cette volonté de bah voilà, quand la candidature était possible, de pouvoir non pas être incontournable, mais d'avoir vraiment le meilleur dossier, voilà, d'avoir été plébiscité par certains joueurs de l'équipe de France à ce moment-là, bah voilà, c'était incroyable. Surtout que l'année d'avant, je m'étais engagé avec les Canadiens. Donc ça avait fait, voilà, je m'étais dit, bon, bah, la France, ça, c'est pas pour tout de suite, et puis bah, c'est arrivé l'année d'après. Et puis moi qui coordonne tout le reste de l'année, pendant une semaine, je suis choyé comme jamais, quoi. Donc c'est incroyable, dans des conditions de travail qui sont géniales, qui me sortent de l'organisation classique que je peux avoir le reste de l'année.
Ouais.
Donc non, c'est un kiff incroyable.
Et le bizutage, ça ressemblait à quoi ?
Ça ressemblait à quoi ? Alors, j'ai de la chance, j'étais pas tout seul. Il y avait le doc qui était avec moi aussi. On a dû, je crois qu'on était en string rouge. On a traversé le petit étang qui longeait l'hôtel à Pau en plein après-midi avec un bonnet d'équipe de France sur la tête. Voilà. Et ils ont été sympas. On a gardé nos boxers, parce qu'il y avait quand même des mamans avec leurs enfants. Mais sinon, je crois que le plan original, c'était le string tel qu'il aurait dû être.
C'est bon esprit.
Allez, place au démoulage, on va voir ce que ça donne.
Donc là, ça fait 1h30.
Ouais, presque 2 heures. Ouais, presque 2 heures. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On est pas mal, hein ? On est pas mal du tout. On va essayer de la sortir sans racasser. Là, ça sort bien. J'ai l'impression qu'on est. Bah voilà, on a les arêtes bien dessinées. C'est lisse, c'est propre. On a voilà, le dessin du butt cap qui est plutôt pas mal. Bien propre, bien net. On est pas mal. On a même pas beaucoup de matière ici. Donc on va pouvoir très rapidement accéder si besoin.
Soulagé ?
Ouais, c'est pas mal. C'est toujours. Bah comme c'est long. Quand ça se passe pas bien, il faut attendre 2 heures avant d'obtenir un rendu plutôt pas mal. Donc, puis du coup là, tu vois, t'as la petite, voilà, tu vois, ça viendra s'intégrer là. On viendra mettre un petit coup de colle, de glue pour finaliser. Voilà. Alors, on va mettre un petit coup de pour essayer d'enlever la petite pellicule sur la. Voilà. On va ôter la petite pellicule qui est quasi inexistante ici.
Joe, il continue de te payer le prix de l'époque. Pareil, ça va bouger.
Ouais, bah, c'est, le prix n'a jamais été indexé sur la compétition ou éventuellement ses revenus. C'est, voilà, ça me prend pas mal de temps, il y a pas mal de développement derrière. Donc oui, ça, c'est une prestation qui à la raquette, on est à 140 euros. Qui comprend le moule et le fait de finaliser la raquette, parce que là, bon, on a un manche, mais on a encore tout le travail de finalisation sur la préparation, hein, la mettre à ses cotes, aux cotes voulues. On va faire une petite étape préliminaire en vue de la préparation. Tiens, vas-y, devine.
La chaussure de Gaël qui traîne 48.
Putain, t'es bon.
Je suis là.
Ouais, voilà, 48. Alors, Dave, du coup, je vais ouvrir les... Donc du coup là, si je retire le coton, j'aurai pas les
débris dans le cadre.
J'aurai pas les débris, ça fera pas les maracas. Donc le grip, première étape. Donc grip synthétique, Joel, c'est la seule demande différente de, par rapport à ses raquettes de, on va dire, de compète. C'est que là, bah, il va se soulager un petit peu le bras, il va mettre un grip synthétique un peu plus confortable.
D'accord.
Donc voilà, on passe du grip cuir au grip synthétique.
Tu dirais que tu as combien de grips posés dans ta carrière ?
Ouf. En fait, c'est la position qui me fait le plus mal au dos. Étonnamment, c'est pas le fait de corder, c'est pas le fait de trimballer des sacs, c'est vraiment poser des grips. Parce qu'en fait, sur cette position vraiment voûtée, où on tire sur les bras et du coup aussi par les épaules, c'est vraiment la position qui me fait vraiment mal. Alors, combien j'en ai mis entre les surgrips et les grips, ça fait un paquet. Hein. Bah, c'est simple, Sharapova, une année, l'année où elle redevient numéro 1 mondiale, elle fait presque quart ou demi sur chaque tournoi. Donc je fais près de 1000 raquettes à l'année, sur cette année-là. Donc 1000 surgrips déjà. Sur cette année-là. Alors c'est moins sollicitant qu'un grip comme ça, mais voilà, ne serait-ce que la position, le fait de, voilà, d'enrouler et de contraindre le dos comme ça, ça a une incidence.
T'es encore en contact avec Marianne ?
De temps en temps, ouais.
Elle t'envoie une petite boîte de Sharapova.
on en a vendu à l'époque au magasin.
Ah ouais ?
Ah ouais ?
Elle t'en avait envoyé ?
Bah ouais.
Oh, Maria, elle est athlétique comme jamais, elle fait full yoga, elle vend des bonbons, quoi. Tu le crois, ouais, ça ?
Et puis elle est merde d'un petit bout. Non, elle est active. Là, une raquette qui tient debout. Du coup, est-ce que ça rentre ? Bah oui, vas-y, le taf. Donc, on va faire le petit diagnostic. Donc, on est à 305,5. Derrière, on vient prendre l'équilibre. Donc là, on est à 33,6. Et en inertie, on est à 321. L'objectif, il est là. De ces côtes-là, il faut que je fasse 329, 30,0, 323. Donc les deltas, c'est 2 points d'inertie. Et je vais commencer par ça. Et après, j'irai corriger le poids et l'équilibre. Donc, pour corriger l'équilibre, relativement simple. Donc, je viens utiliser donc, la partie supérieure. Est-ce qu'à vue de nez, on est pas mal ? On a même un chou trop. Du coup, on va couper. 3 fois rien. Revenir repositionner. Retenter. Parfait. Donc on sait ce qu'on a à rajouter. On va venir les cacher sous la gaine. Donc j'ai jamais parlé de la bipolarité des raquettes. Mais il est possible que la répartition ne soit pas homogène entre le côté droit et le côté gauche. Moi, j'ai pris l'habitude de toujours centrer ce que je fais. Je ne m'amuse pas à corriger à droite à gauche, donc j'essaie toujours de centrer les choses. Mais il se peut qu'en fonction de la production, il y ait des écarts sur la polarité des raquettes. Donc là, on est bon normalement sur... On revérifie, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ait bougé. Voilà. Et donc là, on peut reprendre. Bon, ça n'a pas dû bouger, j'ai dû rajouter moins d'un gramme. Donc on est à 306,2. Et donc pour aller à 29, on est à plus ou moins 22, 23 grammes. Et on a 1,6 cm d'équilibre. Donc j'ai 22-23 grammes à rajouter. Donc je vais positionner ma raquette, je vais m'arranger pour trouver. Donc ça doit faire... on va regarder combien ça fait. Bon, 25, c'est un chouï trop. Voilà. Je vais simuler le rajout de masse ici pour essayer d'identifier en voyant si je rajoute tout le poids à cet endroit-là, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Et on voit que je suis à 31,9. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de le décaler au maximum pour essayer de trouver 32 d'équilibre. Voilà. Et donc là, on est à l'équilibre à 32. Ce qui fait que on a parfaitement les cotes attendues. Donc, je ne vais pas juste déposer ça. On va essayer de travailler avec l'emplacement qu'on a ici. On va essayer de sortir un maximum. Donc là, on va aller choisir donc, le silicone. Donc là, je fais déjà un premier check, voir combien j'ai rajouté. Donc là, on est à 311 grammes, donc il nous en manque pas mal. Et c'est là où je vais utiliser là, tout ce que j'ai en termes pour lester. Parce que je vais pouvoir refermer un petit peu, mais je ne vais pas pouvoir gagner autant que je voudrais. Donc je vais aller chercher... C'est pour ça que je les garde, ces petits trucs.
Bijoux de famille, d'or en or, gourmette.
C'est ça, exactement. Si on veut vraiment travailler avec la qualité, on peut faire ça. On va même mettre celle-ci. Et là, on est à 327. On est peut-être même un poil trop. On va commencer déjà avec celui-là et on verra ce qu'on rajoute. Donc du coup, si je me rappelle bien, ici, il y a de la place. Donc j'ai un glissé au plus bas. Voilà. Venir vraiment recouvrir pour qu'il soit bien pris dans le silicone. Voilà. Un jour à la douane à Dubaï, ils m'ont fait ouvrir les raquettes pour savoir ce qu'il y avait dedans, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des petits trucs comme ça sur tout le long.
Ah bah oui.
Ouais, Berdic, il était content de retrouver ses raquettes complètement défoncées.
T'as dû ouvrir les 8 raquettes de Thomas.
Non, en fait, à Dubaï, ils nous font passer et je sais plus pour quelle raison, j'avais ces raquettes avec lui dans mon... avec moi, et donc je fais passer à la sécurité les raquettes, et ils me disent, attendez monsieur, qu'est-ce que vous avez dans vos raquettes? Et ils me montrent l'image, et ils me montrent donc ces petites barres de... Voilà, c'est du plomb, je ne sais pas quel matériel c'est, mais voilà, relativement lourd, pour lester les raquettes, comme je le fais là, et il y en avait vraiment sur une bonne partie de la raquette.
T'as dû ouvrir les 8 et les refaire plus tard, du coup.
Mais en fait, j'ai juste montré que c'était ça, dans le silicone, et heureusement c'était du silicone transparent, donc on a pu deviner ce que c'était. D'accord. Mais ils ont voulu voir les 8 raquettes. Donc j'ai ouvert là comme j'ai pu. Donc le problème c'est que la trappe était un peu abîmée. Donc on va vérifier quand même qu'on soit bon en termes d'équilibre. Et là on est à 31,8. Donc là je vais venir coller donc, sur une petite partie qui n'est à ça. Toutes les parties pour venir fixer. Et ben voilà. 1 sur 8. Voilà. Et donc là, on a la raquette. On est passé de ça à de ça, à ça.
Énorme. Manche 8, évidemment.
Non, c'est pas si gros. Hein. Regarde, c'est un. Ça doit être un petit 3,5, je pense. Ou un 3, un quart. On n'est pas très gros.
Bon, bah, merci, monsieur Mauguin.
Avec plaisir.
Voilà une bonne chose de faite.
Bah, 1 sur 8 maintenant, les 7 autres, et puis on pourra partir en vacances.
Mettez donc un like à cette vidéo, ça nous aide comme jamais. Un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'atelier de Ben. Et à la prochaine, mec.
Avec plaisir.
Allez, ciao, ciao.